de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, Sergita. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, Sergita, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous. Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le gouverneur de Jakarta, M. Anies Baswedan, a accueilli lundi l'ambassadeur de Palestine en Indonésie. L'Indonésie, la Grande-Bretagne et l'Australie discutent de la sécurité du fret aérien. Ce jour, la Chine impose des droits anti-dumping sur l'acier inoxydable de l'Indonésie. PT Inka a envoyé 26 wagons de train au Bangladesh. L'ambassadeur d'Indonésie en Roumanie invite les îles de Riau à se joindre au Festival indonésien romain 2019. Le ministre du Tourisme espère que Labuan Bajo sera une destination touristique excellente. Jérémy nous présente maintenant le journal complet. Le gouverneur de Jakarta, M. Anies Baswedan, a accueilli lundi l'ambassadeur de Palestine en Indonésie, Zuhair Al-Sun, et sa délégation à Jakarta. La visite visait à discuter du développement des relations économiques potentielles entre Palestine et Jakarta. Il espérait que les relations commerciales entre les deux pays se renforceront à travers les relations commerciales. Cette relation d'affaires profitera aux deux pays et Palestine peut introduire ses produits tels que les dattes, l'huile d'olive, le baklava. Anies a également invité des représentants et des hommes d'affaires palestiniens à présenter leurs produits de qualité supérieure au Bazar du Peuple à Jalan Jenderal Sudirman Tamrin, qui se tiendra en septembre. L'Indonésie, la Grande-Bretagne et l'Australie, conjointement avec l'Association de Transport Aérien International, ont organisé depuis lundi un atelier sur les efforts visant à renforcer la sécurité du fret aérien à Tarakan dans la province de Kalimantan du Nord. L'atelier devrait fournir des éléments positifs pour améliorer le fret aérien et le système de sécurité postale en Indonésie. C'est ce qu'a déclaré Polana B. Pramesti, directrice générale du transport aérien du ministère indonésien des transports, dans sa déclaration à Jakarta mardi. Polana a souligné qu'en plus de renforcer la réglementation en matière de transport de fret aérien, l'atelier visait à renforcer la coopération entre l'Indonésie et d'autres pays du secteur de l'aviation et tenir l'Indonésie au courant des dernières avancées en matière de technologie aéronautique. Les normes et pratiques recommandées concernant la responsabilité du fret aérien et la sécurité postale contre les actes illicites font partie des sujets abordés lors de l'atelier. Conformément à l'annexe 17 de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale concernant la sécurité des vols, le gouvernement chinois a annoncé par ce jour mardi qu'il imposerait des droits anti-dumping à l'importation sur les produits en acier inoxydable en provenance d'Indonésie. Une politique similaire s'applique aux produits en acier inoxydable de l'Union européenne, du Japon et de la Corée du Sud. Le ministère chinois du commerce a déclaré que les droits anti-dumping appliqués 18,1% et 103,1% de BMAD seraient appliqués aux billets en acier inoxydable et aux tôles d'acier inoxydable laminé au chaud. En réponse au verdict chinois, le ministère indonésien du commerce a estimé que les exportateurs indonésiens d'acier inoxydable étaient moins coopératifs dans le processus de défense des mesures de sécurité commerciale prise par la Chine. La directrice de la sécurité commerciale du ministère du Commerce, Pratnyawati, a déclaré que le gouvernement indonésien avait en réalité défendu sur l'accusation du dumping par la Chine aux produits en acier inoxydable en provenance d'Indonésie. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. PT Industri Kereta Api ou INKA a envoyé 26 wagons de chemin de fer au port de Chittagong au Bangladesh dans le cadre de la continuation de la coopération en matière d'exportation dans ce pays à partir d'une commande totale de 250 wagons par le terminal Jamrud 2, le port de Tanjung Perak, Surabaya. Le président directeur de PT INKA, M. Budi Noviantoro à Surabaya, a déclaré mardi que les 26 trains devaient arriver à Chittagong, Bangladesh, au début d'août 2019. L'ambassadeur de la République d'Indonésie en Roumanie, M. Muhammad Amhar Azet, a invité la province des îles de Riau à participer au Festival indonésien 2019 en Roumanie et en République de Moldavie. Les îles de Riau sont invitées pour diverses raisons, entre autres au niveau national. Les îles de Riau excellent dans le domaine de la pêche, possèdent une source de destination touristique abondante et la bonne région dans le domaine pour investir. M. Muhammad Amhar Azet, lors d'une visite au gouverneur de la province des îles de Riau dans l'île de Dompak à Tanjung Pinang, a déclaré que les trois autres provinces de l'île de Sumatra, qui étaient invitées par l'ambassadeur d'Indonésie à participer au festival indonésien en Roumanie, étaient Aceh, Sumatra du Sud, Sumatra de l'Ouest. Et au festival, ces quatre provinces vont promouvoir le domaine du commerce, du tourisme culturel et des investissements. Le ministre du Tourisme indonésien, M. Arief Yahya, espère que Labuan Bajo à Nusa Tenggara Est peut être une destination écotourisme premium. Il était indiqué dans son communiqué de presse à Jakarta mardi. Le ministre Arief Yahya espérait également que l'aéroport de Komodo pourrait être un aéroport international afin de favoriser l'accessibilité à la destination. En outre, il a espéré que Labuan Bajo disposerait bientôt d'un plan directeur intégré du tourisme afin de concrétiser les atouts du tourisme dans la destination. C'est ce qu'a affirmé le ministre Arief Yahya lors de l'ouverture du tournoi international de boxe de la 23e Coupe du Président à Labuan Bajo, l'ouest de Manggarai, Nusa Tenggara Est, lundi. Le ministre Arief Yahya a souligné que trois aspects, à savoir l'attraction, l'accessibilité et l'infrastructure, devraient être améliorés afin de faire Labuan Bajo comme destination touristique excellente. Dans le but de satisfaire à cette exigence, le gouvernement indonésien a développé des installations destinées à faciliter l'accès des touristes à la destination et renforcer le statut de l'aéroport international de Komodo en tant que l'aéroport international. Dans le but de répondre à cette exigence, le gouvernement indonésien a développé des installations destinées à faciliter l'accès des touristes à la destination et renforcer le statut de l'aéroport international de Komodo en tant que l'aéroport international. Chers amis, c'est le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Bonsoir à tous et à toutes. Voici le commentaire. Ce soir avec moi, Audrey. On a le sujet intitulé « Le premier ministre de la Grande-Bretagne, Boris Johnson, et la crise du Brexit ». La Grande-Bretagne a un nouveau premier ministre au milieu de la controverse sur la façon de ce pays de sortir du Brexit. Après avoir remporté l'élection interne du président du Parti conservateur, Boris Johnson, a pris ses fonctions de premier ministre conformément au système parlementaire. Conformément aux règles du pays, Boris Johnson sera installé par la reine Elizabeth à la tête de l'État avant d'occuper officiellement son nouveau poste. Lors d'un vote pour l'élection interne du président du Parti conservateur, mardi 23 juillet, Boris Johnson a remporté 66,4% des suffrages, battant son rival Jeremy Hunt, ancien ministre des Affaires étrangères. Après l'annonce des résultats des élections, Jeremy Hunt a immédiatement félicité Boris Johnson pour sa victoire. Les félicitations ont également été prononcées par Theresa May, qui a démissionné du poste de Premier ministre il y a quelque temps. Dans son discours de victoire diffusé par la BBC, Boris Johnson a promis de prendre des mesures immédiates concernant la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne nommée le Brexit. Boris Johnson, ancien maire de Londres, a souligné que le Brexit serait achevé d'ici le 31 octobre. Le politicien du Parti conservateur pense également qu'il sera capable de vaincre le chef de l'opposition Jeremy Corbyn avec son parti travailliste et de restaurer la gloire de la Grande-Bretagne. L'élection de Boris Johnson au poste de Premier ministre britannique a immédiatement reçu des réponses des États-Unis et de l'Iran. Dans ses félicitations, le président Donald Trump pense que Boris Johnson réussira. Auparavant, Trump fournissait un soutien à Boris Johnson. De Téhéran, le ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a déclaré que l'Iran ne voulait pas prolonger la confrontation avec la Grande-Bretagne. Les gardiens de la révolution iranienne ont été arrêtés la semaine dernière un pétrolier britannique, la Stena Impero, dans le détroit d'Ormuz. Ce problème n'est pas encore résolu car il implique d'autres parties telles que les États-Unis et leurs alliés. Il est possible que le nouveau Premier ministre britannique Boris Johnson se concentre sur la question du Brexit dans les délais impartis le 31 octobre. La crise politique qui pourrait menacer l'économie britannique après le référendum qui a causé la Grande-Bretagne à quitter l'Union européenne doit être résolue immédiatement. En ce qui concerne le Brexit, Boris Johnson était déterminé à l'exécuter immédiatement avec un accord ou sans accord. L'attitude de Boris Johnson a déjà provoqué des protestations. Le Parti conservateur estime que la Grande-Bretagne doit quitter l'Union européenne sans accord. Il est à craindre qu'il y aura une crise dans les domaines politiques, économiques et sociaux. Le peuple britannique attend maintenant des mesures à prendre Boris Johnson, qui est connu depuis longtemps dans sa communauté comme un personnage controversé. Chers auditeurs, c'était le commentaire.
Bonsoir à tous. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 24 juillet. On commence par le 24 juillet 1911. L'archéologue Hiram Bingham a découvert la ville d'Incha Machu Picchu. Hiram Bingham III est un explorateur et homme politique américain. Il a enseigné à l'université de Yale. En 1924, il devient gouverneur puis sénateur des EU. Incia est une tribu indienne bien connue en Amérique du Sud et déjà éteinte. Le Machu Picchu est construit sur une haute montagne à 3140 mètres et Huayna Picchu à 2700 mètres. La ville Incia se trouve à une hauteur de 2400 mètres. Bingham y découvre plus de 260 constructions très élaborées, oubliées pendant trois siècles. Machu Picchu était une cité de villégiateurs pour la classe dirigeante Inca établie à Cusco. Le site a été construit au XIVe siècle puis abandonné à l'arrivée des conquérants espagnols au milieu du VIe siècle. Depuis 1983, le site est sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le 7 juillet 2007, Machu Picchu a été désigné comme l'une des 7 nouvelles merveilles du monde par la New Open World Foundation, un organisme non officiel et à caractère commercial. Enfin, le site fait partie de tout un ensemble culturel et naturel connu sous le nom de Sanctuaire historique de Machu Picchu. Le 24 juillet 1923, l'accord de Lausanne est signé. L'accord de Lausanne était un accord de paix signé à Lausanne, en Suisse, le 24 juillet 1923. Cet accord mettait fin officiellement au conflit entre les califats ottomans et les alliés de l'Empire britannique, la République française, le Royaume d'Italie, l'Empire japonais, le Royaume de Grèce et le Royaume de Roumanie depuis le début de la Première Guerre mondiale. L'accord a été ratifié par la Turquie le 23 août 1923, la Grèce le 25 août 1923, l'Italie le 12 mars 1924, le Japon le 15 mai 1924, et le Royaume-Uni le 16 juillet 1924. Nous terminons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement le 24 juillet 1969, Apollo 11 est revenu sur Terre. Apollo 11 est la première mission spatiale humaine à emmener avec succès des humains sur la Lune et à la ramener en toute sécurité. Apollo 11 a été lancé le 16 juillet 1969 avec une fusée Saturn V et est arrivé sur la Lune le 20 juillet de la même année. À son atterrissage sur la Lune, Neil Armstrong, Edwin Aldrin et Michael Collins ont piloté le faisceau spatial. Apollo est revenu sur Terre le 24 juillet 1969 et a atterri à l'océan Pacifique. C'est toute l'histoire d'aujourd'hui.
Ada sesuatu yang ingin aku katakan kepadamu, matahari jiwaku. Setelah sekian lama kita berdua memadu asmara, kini tiba waktunya ku mengutarakannya padamu. Oh, oh. Sampai usai.
chers auditeurs, c'était la chanson intitulée « Jusqu'à la fin du temps » chantée par Sandy Sandoro feat. Monita. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie à tout le monde. Et voici donc Mon Indonésie.
Bonsoir à tous et à toutes. Voici le programme Mon Indonésie. Ce soir avec moi, Audrey, le sujet de ce soir, intitulé « Les participants au programme de bourse pour talents numériques sont entrés dans la base de données du ministère indonésien de la communication et de l'informatique ». Le ministre indonésien de la communication et de l'informatique, Menkominfo Rudiantara, a déclaré que les participants au programme de bourse pour talents numériques seront inclus dans la base de données du ministère de la communication et de l'informatique afin de faciliter la tâche des entreprises à la recherche de personnel qualifié, en particulier de compétences numériques. Le ministre de la communication et de l'informatique, Rudiantara, à Makassar, a déclaré mardi que le programme lancé depuis 2018 se continue de mettre l'accent sur l'impression ou la création de ressources dotées d'une expertise. Il a expliqué que le programme lui-même s'effectue depuis 2018 en accueillant jusqu'à 1000 participants sous forme de bourse. De plus, cette année, il a été élargi pour accueillir jusqu'à 25 000 participants. Des dizaines de milliards de participants ont ensuite été formés intensivement à la maîtrise des compétences techniques et générales, en particulier dans les domaines de l'intelligence technique artificielle, du big data, du cloud computing, de la cybersécurité, de l'Internet des objets ou bien IoT, de l'apprentissage automatique et de plusieurs autres thèmes de formation. Le programme Digital Talent Scholarship Year 2019, DTS 2019, est un programme de développement des ressources humaines mis en œuvre par le ministère de la Communication et de l'Informatique dans le cadre d'un programme de développement prioritaire national. Le programme Digital Talent Scholarship 2019 est une forme de soutien gouvernemental visant à développer l'écosystème économique numérique indonésien par le biais de bourses d'études et de formation dans le domaine de la communication et de l'informatique. Le programme devrait augmenter la compétence des ressources de l'Indonésie pour être compétitive et capable de répondre aux besoins de l'industrie 4.0. Le programme de formation aux compétences numériques de l'année 2019 est composé de 4 académies. Académie des nouveaux diplômés, Académie des études supérieures professionnelles, Académie des enseignants de codage et Académie en ligne. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie.
Hati, kau yang warnai musim semiku. Di kala hati ini gundah, kau membuatnya menjadi cerah. Kaulah matahariku dan kaulah samudra, tempat hatiku bermuara. Kau jawaban dari doaku yang akhiri penantianku. Bagai bintang jatuh, kau hadirkan harapan di dalam hati. Kaulah deburan ombak yang pecahkan batu karangku. Kaulah gugusan bintang yang hiasi malam gelap. Kala hati ini gundah, kau membuatnya menjadi cerah. Kaulah matahariku dan kaulah samudra, tempat hatiku bermuara. Tempat hatiku bermuara.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson intitulée Estuaire, chantée par Adera. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie à tout le monde. Bon, c'est le talk. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Bonsoir, chers auditeurs et chers auditeurs de la Voix d'Indonésie. Nous nous retrouvons dans notre programme favori, le magazine culturel. Cette fois-ci, nous allons vous inviter à visiter l'île d'Alor. L'Indonésie a une très belle nature. L'une d'elles est l'île d'Alor dans la province de Nusa Tenggara Est. Sur l'île d'Alor, certaines tribus traditionnelles de Flores ont des coutumes qui ne changent pas beaucoup depuis l'âge de la pierre. Même, l'une des tribus conserve encore la tradition de confection de vêtements en écorce d'arbre appelée ka-vêtements. La splendeur culturelle d'Alor se trouve dans la tribu Tapala, qui vit dans le village de l'ouest de Lembourg, au nord d'Alor Tengah. Alor est l'une des 92 îles les plus éloignées d'Indonésie, car Alor est bordée par le Timor-Leste et le détroit de Mbaï au sud. Alor est un archipel traversé par des lignes de commerce international menant à l'océan Pacifique. La beauté de sa nature et l'hospitalité de ses habitants s'uniront pour vous faire vivre une expérience inoubliable si vous séjournez sur l'île. À cause de cela, beaucoup de gens disent qu'Alor est l'abréviation d'Alam Lestari dan Orang Ramah. En français, signifie nature durable et gens sympathiques. Outre la richesse du tourisme maritime, Alor possède également un tourisme culturel et historique. L'île d'Alor est également connue sous le nom de Mille Îles de Moko. Moko est un petit tambour en bronze qui est clou de la culture Dong Song du Vietnam. Mais il reste à savoir comment la préhistoire du tambour Dong Song peut exister à Alor. Les populations locales ont déclaré que Moko est retrouvé enterré. Pour observer cet artefact unique, vous pouvez visiter le musée Seribu Moko dans la ville de Kalabahi sur l'île d'Alor. Le musée présente également une collection tissée à la main Alor appelée Kawate. L'île abrite également le plus ancien Coran qui a été découvert en Indonésie et en Asie du Sud-Est. Le Coran, qui devrait avoir plus de 800 ans, a été fabriqué à partir d'écorce d'arbre et utilise des matériaux naturels pour son encre. La résidence d'Alor se compose de 20 îles qui sont divisées en 17 districts. L'île d'Alor a environ 6 à 1700 mètres d'altitude au-dessus de la surface de la mer avec un climat semi-aride où la période de changement de saison s'est produite non équilibrée. L'état du sol qui est accidenté donne un climat différent, mais c'est un avantage pour les produits de la plante. Chers auditeurs, c'était notre programme, le magazine culturel pour aujourd'hui, intitulé L'île d'Alor. Merci de nous avoir suivis. À demain.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Perbaiki saya sedih, sedih, sedih. Mohon Tuhan, Tuhan.
Chers auditeurs, c'était la chanson d'Abi Rama intitulée « Sourire à nouveau ». Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie à tout le monde. Pour la rubrique suivante, voici donc « Apprendre l'Indonésien ».
Bonsoir à tous, on se retrouve dans l'émission « Apprendre l'Indonésien », une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre la Voix de l'Indonésie avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République de l'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est sakit diarrhée. Je répète, sakit diarrhée, qui signifie la diarrhée. Bonne écoute. Chers amis, je vais vous donner l'exemple d'une conversation intitulée « Sakit diarrhée », qui signifie la diarrhée. Tony est le médecin à la salle de contrôle. Tony est malade. Joko l'a emmené voir un médecin. Tony est examiné par un médecin.
Anda terkena diarrhée.
Saya
akan memberikan resep. Apa Anda punya alergi terhadap obat?
Tidak, dok.
Oke, ini resep obatnya. Oh iya, jangan makan makanan yang pedas dan asam untuk sementara waktu.
Baik dokter, terima kasih.
Après avoir écouté cette conversation, je vais vous introduire des vocabulaires et des phrases indonésiennes liées au sujet d'aujourd'hui. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez les répéter après moi. Anda terkena diare. Anda terkena diare. Qui signifie vous avez la diare. Saya akan memberikan resep. Saya akan memberikan resep. Qui signifie je vais donner une prescription. Anda punya alergi terhadap obat. Anda punya alergi terhadap obat. Qui signifie avez-vous des allergies aux médicaments? Ini resep obatnya. Ini resep obatnya. Qui signifie voici la prescription. Jangan makan makanan yang pedas dan asam untuk sementara waktu. Jangan makan makanan yang pedas dan asam untuk sementara waktu. Qui signifie ne pas manger des aliments épicés et aigres pendant un certain temps. Baik, dokter. Baik, dokter. Qui signifie bien, monsieur médecin. Dans le dialogue, le médecin interdit à Tony de manger des aliments épicés et aigres. Pour interdire à quelqu'un de faire quelque chose, utilisez le mot « jangan » suivi d'un verbe. Par exemple, « jangan minum air es ». Jangan minum air es. En français, « ne buvez pas d'eau froide ». Jangan minum obat itu. Jangan minum obat itu. En français, ne prenez pas ce médicament. En plus du mot jangan, les autres mots utilisés dans la phrase interdite sont dilarang, dilarang et tidak boleh. Tidak boleh. Par exemple, Anda tidak boleh mandi air dingin. Anda tidak boleh mandi air dingin. En français, vous ne pouvez pas prendre une douche froide. Et saya dilarang makan udang oleh dokter. Saya dilarang makan udang oleh dokter. En français, je suis interdit de manger des crevettes par le médecin. Notez et apprenez l'utilisation des mots jangan ou ne pas, dilarang uang terdi, et tidak boleh unong autorisé dans les phrases suivantes. Jangan minum air es. Jangan minum air es. En français, ne buvez pas d'eau froide. Saya dilarang minum air es. Saya dilarang minum air es. En français, je suis interdit de boire d'eau froide. Dilarang minum air es. Dilarang minum air es. En français, il est interdit de boire d'eau froide. Kamu tidak boleh minum air es. Kamu tidak boleh minum air es. En français, tu n'es pas autorisé à boire d'eau froide. Tidak boleh minum air es. Tidak boleh minum air es. En français, il n'est pas autorisé à boire d'eau froide. Avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour mieux comprendre, écoutons encore une fois la conversation.
Anda terkena diare.
Hmm.
Saya akan memberikan resep. Apa Anda punya alergi terhadap obat?
Tidak, dok.
Oke, ini resep obatnya. Oh iya, jangan makan makanan yang pedas dan asam untuk sementara waktu.
Baik, dokter. Terima kasih.
Chers amis, voilà l'édition de la rubrique d'apprendre l'indonésien aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour ceux d'entre vous qui veulent savoir plus l'indonésien. On se retrouvera demain avec d'autres sujets intéressants. Merci beaucoup pour votre attention et à demain.
Sebut cinta tak mungkin bisa melukai seperti yakinku juga begitu. Kau sebut cinta bisa saling menjaga, menjaga hati agar bahagia. Cinta takkan pernah sanggup tuk menyakiti. aku selamanya.
Kita remaja yang sedang di mabuk asmara, mengikat janji bersama selamanya. Hati telah terikat, sepasang mata memikat, melambungkan asmara yang selalu meminta mengulur senja menanti datang sang pemilik hati. Rela menanti sejak terbit mentari, tak sabar untuk berbagi segala isi di hati. Ceriakan sanubari dan bercumbu di ujung hari. Indahnya kisah kasih kita di masa remaja, di bawah rayu senja kita di madu bermanja. Tiada masa-masa yang lebih indah dari masa remaja, seakan dunia milik berdua. Hati terasa merindu tanpa rasa duka, berkumandang merdu senandung asmara. Kepada yang tercinta, nada-nada tercinta, genggam pesona jiwa. Ku serahkan dan kau terima, kita dua insan yang sedang berpadu kasih. Tak peduli apa yang kan terjadi,
Serviteur. C'était la chanson intitulée Jeunesse, chantée par Hai Vai. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie à tout le monde. Serviteur, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. Chers auditeurs, la suite, vous allez écouter la chanson intitulée Re Ayore. Re Ayore est une chanson de Java de l'Est. La chanson créée par Is Haryanto raconte de quelqu'un qui a invité ses amis à voyager à Tunjungan. Tunjungan est le nom d'une route de la ville de Surabaya. Il y a beaucoup de magasins là-bas, et bien qu'on n'ait pas d'argent, sortir avec des amis sera amusant. La chanson Re Ayore a été popularisée par le regretté maître du Kroncong, s'appelle Mus Mulyadi. Et écoutons maintenant la chanson Re Ayore chantée par Mus Mulyadi.
Walah, malam minggu, duit gak kaplek. Sir-siran ya turun duwe. Senake nemuni kanca-kanca wis nang ngene papatan lho. Apa ya apa kabare?
Mau dilamar.
Rek ayo rek mlaku-mlaku nang tujuan.
Ayo kan
rek ayo rek rame-rame bubarengan.
Ayo kan
cak ayo cak sapa gelem melu aku.
Kuku
cak ayo cak golek kenalan sing ayu. Kona podo ga duwe sang
ayomu
jok dipikir angger podo gelem aku
ayomu
mangan tahu jok dicampur nganggo timun
mun mun
malam minggu ga ambil ati gowo ngamun kona podo ga duwe sang
ayomu
jok dipikir angger podo gelem aku
ayomu
mangan tahu jok dicampur nganggo timun
mun mun
malam minggu ga ape ati gowo mangun malam minggu ga ape ati go on.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Tunisia, l'Indonésie pour le monde. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.